Point suivant. Point suivant. Madame Morel rapporte sur l'approbation du contrat local de santé du territoire messin. Madame Morel, vous avez la parole.
Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est avec bonheur que je vous présente ce soir la DCM qui a pour objet l'approbation du conseil local de santé du territoire messin qui va être signé le 9 novembre après plus de 2 ans et demi de travail. Le contrat local de santé est un outil innovant de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, introduit par la loi HPST qui a été reconfirmée par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. À savoir que depuis 2015, la ville de Metz travaille en partenariat avec l'ARS Grand Est pour la mise en œuvre d'un contrat local de santé sur le territoire messin. Et je tenais quand même à vous rappeler que c'était une promesse de campagne électorale de 2014. L'objectif est de construire une dynamique de santé locale cohérente et coordonnée pour fédérer les initiatives locales et répondre aux besoins de la population. Cet engagement vient renforcer une politique de santé volontariste menée depuis plusieurs années par la ville de Metz qui s'est traduite par l'adhésion en 2009 au réseau français des villes santé OMS pour une meilleure prise en compte de la santé dans l'ensemble des politiques menées par les villes. Je tiens à rappeler donc qu'on est bien dans la notion de santé au sens de l'OMS et pas uniquement du sanitaire. Donc, la politique qui est menée par les villes afin d'agir sur les déterminants de la santé, le déploiement en 2011 de la démarche Atelier Santé-Ville sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la volonté de renforcer l'action de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé et la création en 2014 de la mission Ville pour tous, compétente en matière de santé notamment. Donc, le travail de longue haleine du CLS a été élaboré et s'est appuyé sur une forte dynamique partenariale et la collaboration de 96 structures, d'associations, d'institutions du territoire. Après, bien sûr, un diagnostic local de santé partagé qui a été réalisé par l'ORSAS Lorraine, qui a tenu compte du point de vue des professionnels, des institutions, des associations ainsi que des médecins. Les 6 axes stratégiques du contrat local de santé du territoire messin validé par le comité de pilotage du CLS sont les suivants. Premier axe, commencer la vie en bonne santé. Deuxième axe, agir pour la santé des femmes. Troisième axe, prévenir et accompagner les maladies chroniques qui sont un grand fléau de notre société actuelle. Quatrième axe, promouvoir le bien-être psychique. C'est un axe qui est mis en œuvre par le Conseil local de santé mentale du territoire messin, dont la convention a été jointe en annexe du contrat local de santé et qui sera aussi à approuver ce soir lors de ce conseil municipal par cette DCM. Il s'agit, l'axe 5, de renforcer les environnements favorables et, sixièmement, d'organiser l'accès aux soins et les parcours de santé. Le CLS est conclu pour une durée de 3 ans, donc 2017-2020, entre plusieurs partenaires, parmi lesquels on retrouve l'ARS, la région Grand Est, le régime local d'assurance maladie et Metz Métropole. Alors, les partenaires signataires, ils ont fondé leur action sur des priorités communes, qui est apporter des réponses graduées en fonction des besoins de la population, agir sur les inégalités d'accès et de continuité du système de soins, promouvoir un parcours cohérent et adapté à chacun, penser et développer la participation citoyenne, adopter une approche intersectorielle, développer l'articulation CLS politique de la ville, définir une stratégie locale d'intervention cohérente avec celle des autres échelons d'intervention régionales, nationales, et évaluer le processus CLS et les actions CLS de façon à pouvoir les réajuster et les amender. Donc le CLS précise le contexte, le champ et l'objet du contrat, le suivi et l'évaluation de celui-ci, ainsi que les engagements réciproques des signataires en faveur des axes stratégiques retenus collectivement. Il recense en annexe les 55 fiches actions qui le composent et que vous avez pu lire dans ce rapport. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver ce document afin également de compléter certaines fiches actions. Il vous est proposé ainsi aussi de décliner d'ores et déjà à travers des actions suivantes. Pour répondre aux besoins et l'objectif de l'action 1, commencer la ville en bonne santé, le syndicat des orthophonistes de Moselle, le SDOM 57 et la ville de Metz souhaitent poursuivre leur partenariat sur la durée du CLS. Il se traduira dès le début du CLS par la tenue d'une réunion de sensibilisation et d'information des professionnels de la petite enfance du territoire messin sur le repérage et la prévention des troubles du langage et de l'utilisation des écrans pour les jeunes enfants. C'est une action qui a déjà été menée dans le cadre de l'atelier Santé-Ville et qui est une très bonne évaluation. Donc on poursuit ce partenariat. Il est également demandé, pour répondre aux besoins et l'objectif de l'axe 4, promouvoir le bien-être psychique. Donc la mutualité française Grand Ex souhaite organiser à Metz une action de prévention sur la santé mentale des actifs. On est donc là sur les conditions de travail. Cette action s'articule autour d'un débat théâtre sur les risques psychosociaux et la souffrance au travail, suivi d'un cycle de 5 ateliers traitant de la gestion du stress, l'estime de soi, l'affirmation de soi, donc les compétences psychosociales, les réseaux d'aide et la découverte d'une activité de détente. La ville de Metz est sollicitée au financement de cette action à hauteur de 1 036 euros et mettra à disposition gracieusement une salle de réunion pour la tenue des ateliers. La mention est donc en conséquence.
Merci. Alors, un grand nombre de personnes sont inscrites. Monsieur Gourlot pour 3 minutes, Madame Singer pour 2 minutes, Madame Nicolas pour 2 minutes, Madame Zimmermann et Monsieur Van Ling pour 4 minutes, Madame Molinet pour 2 minutes, Monsieur Cambianique et Madame Myriam Segrafena ensemble pour 2 minutes, et Madame Nadia Séguir, Bory, Madame Nadia Séguir, Bory et Kossig pour 8 minutes. Monsieur Gourlot.
Merci, Monsieur le maire. Cela sera très court. Bon, en matière de compétences santé, nous avons surtout la prévention. Il faut veiller à ce qu'on ne dépasse pas, disons, nos compétences et nos prérogatives, parce qu'on ne peut pas se substituer à tout le monde. Quelques réflexions comme ça. Sur les 6 axes, on parle d'agir pour la santé des femmes et quid des hommes, parce que je croyais qu'on parle d'inégalité de santé. Les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Donc déjà, on est quelque part un peu inégal là-dessus. Mais bon, ça, c'est une petite réflexion. Autre réflexion sur les maladies chroniques. On parle ici et là du retour de certaines maladies qui avaient disparu, comme la gale ou la tuberculose. Est-ce qu'on a des chiffres en ce qui concerne notre ville ? Enfin, qui avait disparu ou quasiment, enfin, pas tout à fait disparu. Disons, oui, docteur, la gale, disons, était moindre que maintenant, et la tuberculose avait quand même quasiment disparu de nos contrées. Voilà. Ensuite, je vois aussi qu'on commençait la vie en bonne santé avec les orthophonistes, etc. Là, on peut s'interroger ici sur certaines méthodes d'éducation inappropriées qui fait qu'effectivement, de l'éducation nationale, oui, qui fait que c'est les orthophonistes eux-mêmes, d'ailleurs, qui en parlent. Voilà, mais enfin, au-delà de ces quelques observations, nous approuverons ce rapport.
Merci. Madame Singer.
Alors, Monsieur le maire, vous nous demandez d'approuver ce soir le contrat local de santé du territoire messin. J'étais intervenue récemment sur le sujet pour vous rappeler qu'un accent particulier devait être mis sur l'accompagnement des personnes âgées de notre ville et sur leur bien-être, d'autant plus dans un environnement changeant où leur permettre de pouvoir se maintenir à domicile dans de bonnes conditions peut être primordial même pour attirer une population soucieuse d'avoir une vie sociale plus importante ici que dans des plus petites communes. Sauf erreur de ma part, dans les 6 axes stratégiques de ce contrat local de santé Messin, cela n'y figure pas. Je souhaite, Monsieur le maire, que cet oubli soit vite réparé, car ce n'est pas avec une publicité telle que Super Senior ou Atout Senior que cela construira notre ville de demain. Tout comme cela ne permettra pas non plus aux nombreuses auxiliaires de vie ou aides-soignantes qui se rendent chaque jour auprès de nos personnes âgées afin de consacrer un peu plus de temps à celles-ci si elles sont obligées de regarder leur montre pour être sûre de ne pas dépasser l'heure de stationnement qu'elles sont aujourd'hui obligées de payer depuis votre décision de rendre payantes les places de stationnement dans les quartiers résidentiels qui n'y étaient pas soumis jusqu'ici. Y compris pour les familles de ces personnes âgées qui vont sans doute venir moins souvent maintenant que c'est devenu payant. Monsieur le maire, ceci ne vous aura sans doute pas échappé, mais pour de nombreuses personnes âgées, ces quelques petites attentions, ces quelques visites sont souvent leur rayon de soleil quotidien. Et je ne peux pas croire que vous ne puissiez pas vous coucher le soir sans y penser. Et puis, il y a un second sujet sur lequel je souhaite m'étendre ce soir et qui a un rapport direct avec ce contrat local de santé. Je veux parler ici du camp de Blida. Rien que le mot est en soi péjoratif. Et pourtant, ils sont là dans des conditions inhumaines et que nous ne cessons de dénoncer. Certains élus vous ont interpellé pourtant. Et pourtant, vous qui vous dites socialiste, en quoi êtes-vous social ? J'y passe 2 fois par semaine et c'est à chaque fois la même vision que j'y vois, celle d'une ville incapable de mener une véritable action de santé publique. C'est un drame humain et il perdure au vu et au su de tous. Oh, évidemment, on a bien vu vos ex-adjoints, aujourd'hui députés En Marche, faire leurs petites photos à proximité de ce camp qui devient petit à petit semblable à celui de Calais. Oui, c'est vrai, on les a vus, mais pour quel résultat ? Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'attente de l'instruction des demandeurs d'asile et de décisions prises, le maire et le préfet ont l'obligation de fournir des hébergements décents. Est-ce le cas ? C'est une honte, monsieur le maire. Et vous jouez la montre. Évidemment, nous avons tous bien compris que les sales besognes, vous préférez les laisser aux autres, n'est-ce pas, monsieur Cambianica ? Mais j'espère pourtant qu'au fond de vous, il y a encore cette part d'humanité que tout le monde vous reconnaissait encore en 2008, avant votre première élection. Il y a des scandales et la honte de laisser faire que nous n'oublierons pas. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Nicolas, pour 2 minutes.
J'en avais demandé un peu plus, 240 pages, mais bon, je ne sais pas qui a lu ce contrat, on peut aussi ne pas en discuter. Hein. Mais je dois dire que ça fait longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi indigeste. 240 pages recto verso qui sont remplies de généralités, de répétitions inutiles, où 50 fois il est écrit la même chose, de façon un peu différente, des généralités, des banalités, du style « les populations vulnérables sont en nombre plus important dans les quartiers prioritaires ». Ben oui, c'est justement pour ça que ces quartiers-là sont prioritaires. Chez les seniors, l'assemblée semble indissociable de deux notions majeures, l'autonomie et le bien-être. Eh ben, pas que chez les seniors, si je puis... Enfin bref, beaucoup de blabla, où se rajoutent 55 fiches techniques dont la plupart des actions existent déjà. Pour les actions qu'on va mettre en place, on ne sait pas qui finance. On ne sait pas quels sont les porteurs. Il y a des financements pressentis. Ce n'est pas chiffré. C'est encore moins ciblé. Et en plus, ces actions ne sont absolument pas priorisées. On aurait pu penser qu'il était plus urgent de développer les actions pour lutter contre les violences faites aux femmes plutôt que de développer la location de vélos électriques. Il aurait été peut-être pertinent justement de cibler les priorités dans ce contrat. Quant à l'organisation, je ne vous en parle même pas, entre le comité de pilotage, le comité technique, le comité opérationnel, comme dirait Audiard, c'est du lourd. Monsieur le maire, quand j'ai fini de lire ce contrat, moi je me suis dit que si on était aussi pertinent dans la mise en place de ces actions que dans l'élaboration de ce contrat, il va falloir beaucoup de temps pour améliorer la santé des médecins. Enfin, dernier point, monsieur le maire, je veux parler aussi des demandeurs d'asile, parce que dans ces 240 pages que j'ai lues en entier, ils ne sont cités qu'une fois et en fin de contrat. Comment peut-on élaborer un contrat local de santé sans qu'aucune action ne soit proposée et dirigée vers ces populations ? Comme si finalement ces populations n'appartenaient pas au territoire, comme si elles n'étaient pas là, comme si elles étaient invisibles. Alors j'ai bien conscience des difficultés que vous rencontrez pour faire face à cette situation. J'ai aussi conscience qu'on ne va pas pouvoir compter sur nos députés, ça l'a été dit. Ils se prennent en photo, ils envoient une lettre à Gérard Collomb. Il faut croire qu'ils ne sont pas tellement photogéniques parce que Gérard Collomb ne bouge pas. On ne pourra pas compter non plus sur Jupiter qui promet 7500 places supplémentaires, mais pas avant 2019, qui promet d'accélérer la demande d'asile pour passer de 18 à 6 mois. Seulement voilà, il ne faut pas 6 mois dans des conditions d'hygiène aussi déplorables pour attraper une maladie contagieuse telle que la tuberculose et la gale. Et il ne faut pas 6 mois non plus pour le propager au sein de la population. Donc la ville, elle peut compter que sur elle-même. Et je vous demande, monsieur le maire, face à ces risques sanitaires, et pour le bon état de tous les habitants, hein, de prendre vos responsabilités. On a quand même 2 conseillers délégués. L'un en charge de la prévention des risques sanitaires, l'autre en charge de l'urgence sociale et humanitaire. Demandez-leur de remplir leurs tâches et de prendre à bras-le-corps ce problème de risque sanitaire. Quel candidat ? Il ne faut pas attendre le début de l'hiver, parce que la tuberculose et la gale n'attendent pas le début de l'hiver pour se propager dans ces populations, mais merci aussi au sein madame des populations messines. Et je vous rappelle, monsieur le maire, que vous avez signé la Charte des droits
merci
de l'homme.
Merci de conclure, madame.
Non, monsieur le maire, il y a 240 pages. Vous avez signé la Charte des droits de l'homme. Et vous nous avez dit à l'époque que si vous ne teniez pas vos engagements, il fallait qu'on vous rappelle à l'ordre. Ben, je vous rappelle un peu à l'ordre.
Et ben, je vous remercie.
Puis je vais vous dire cet été, vous nous avez offert des belles prestations en matière culturelle. Très belle et très réussie. On a tous bien fait la fête, très onéreuse. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'indécence de la part de tout le monde, pas de la vôtre, pas de celle de monsieur le Cadir, de la part de tout le monde, de festoyer ainsi quand on a de telles conditions et des bidonvilles et la misère à nos portes. Je vous remercie.
Merci, madame. Docteur Wendling.
Oui, monsieur le maire, sur le contrat local de santé, je vous suis déjà exprimé plusieurs fois. Je pense qu'effectivement, à un moment où l'argent public est rare, où nous sommes obligés de faire des choix, et nous en faisons à chaque conseil municipal, pour ce qui n'est pas d'une compétence importante de la ville, pour ce qui n'est pas d'une vraie compétence de la ville, je pense que nous aurions dû nous passer de nous engager dans ce domaine. Parce qu'on le voit bien, même si les sommes qui sont allouées sont peu importantes, ne serait-ce que le travail qui a été réalisé pour faire ce rapport a un coût qu'on n'est pas capable d'estimer, puisqu'on ne sait pas, lorsque les fonctionnaires, et pour rédiger 250 pages, il faut quand même passer du temps, combien cela coûte en réalité. Donc on a finalement sans doute plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été dépensés dans cette action, avec, à mon avis, peu de résultats en attendre. Je ne remets pas du tout en cause la qualité de Mme Morel, et je sais qu'elle le fait avec sérieux et avec une vraie volonté, mais je pense que malheureusement, de toute façon, dans ce domaine-là, la ville n'a pas les moyens d'engager des actions, ne serait-ce même de prévention, d'envergure. On est effectivement dans quelques actions un petit peu qui permettent un peu de faire parler. On fait 2-3 réunions, 2-3 séances d'information, des choses comme ça. Mais le fond du problème n'est pas touché. Je dirais juste un mot aussi, parce que ça a été évoqué par mes deux collègues précédemment, sur le problème de Blida. Je suis un petit peu, je pense un peu différemment. Je pense qu'on parle trop, publiquement, politiquement, de cette situation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ce problème, et c'est très compliqué, ils font ce qu'ils peuvent. Je pense que Mme Chabot, à la préfecture, est quelqu'un d'efficace, de remarquable, qui fait ce qu'elle peut, avec une situation extrêmement difficile à gérer, qu'on peut évidemment en parler tout le temps, etc., avec des arrière-pensées qui peuvent être différentes. Hein. Tout le monde est contre, mais enfin, personne ne propose non plus vraiment de solutions, ou alors c'est des solutions qui sont un peu dans les non-dits. Voilà, je pense que moins on en parlera, plus on travaillera sereinement et plus on pourra avancer sur ce dossier. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, d'abord, je partage tout à fait le point de vue du docteur Wendling sur les deux points, et notamment sur le deuxième. Je crois que, si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux, il ne faut pas, et tout le monde connaît la situation, parce qu'on n'est pas obligé de dire au conseil municipal qu'on y va régulièrement. Voilà, point à la ligne, tout le monde la connaît, tout le monde est intervenu, tous ceux qui aujourd'hui sont aux affaires savent très bien la difficulté que rencontrent aujourd'hui les associations par rapport à cette question, sans en faire état, comme je viens de l'entendre, et de manière politicienne, et ça me déplaît hautement. Voilà, je tenais à vous le dire. Deuxièmement, ce que je souhaiterais vous dire, monsieur le maire, c'est que, comme le docteur Wendling, je crois, si vous voulez, que ce contrat local de santé, le document qui nous est présenté, est un document, et je l'ai lu en partie, est un document qui a été effectivement travaillé. Et malheureusement, vous n'avez pas, vous, les moyens aujourd'hui de gérer ce contrat. Et certes, il y a de la bonne volonté, il y a un travail des services qui a été fait, auquel je tiens à rendre hommage, mais la difficulté aujourd'hui, c'est la mise en application de ce contrat. Et c'est là où vraiment, au niveau de la ville, ce n'est pas forcément de la compétence de la ville, c'est l'accompagnement que vous apportez qui est aujourd'hui effectivement nécessaire. Je voudrais très rapidement vous poser deux questions. Première question sur l'avenir de Le Gouest. Alors, j'ai vu ce matin dans le Républicain Lorrain effectivement qu'à Le Gouest, il y avait un développement de l'urgence. Est-ce qu'on va vers cette option Si oui, je pense que ça réglera en partie également le problème de l'hôpital Mercy qui est excentré et qui pose des problèmes notamment aux pompiers, et je crois que c'est une bonne chose. Simplement, ce que je souhaiterais savoir, c'est quelle va être encore la part militaire, parce que lorsqu'on connaît l'efficacité de la médecine militaire, il faudrait là aussi qu'on essaye le plus longtemps possible de préserver cet hôpital militaire. Deuxième autre question, notamment au niveau, lorsque l'on parle, on évoque des déserts médicaux, moi, ce que je souhaiterais également vous dire, c'est que dans la ville de Metz, on a également une pénurie de médecins dans certaines spécialités, et notamment les ophtalmologistes. Et là, y a-t-il là aussi, par rapport notamment à ce contrat, parce que c'est une difficulté que rencontre une personne de la naissance à la fin de vie, et est-ce qu'il y a des moyens à ce moment-là, par rapport aux relations que vous avez avec l'ARS, de pouvoir améliorer cette partie qui pose problème aujourd'hui à Metz et dans toute la région Messine. Merci, monsieur le maire.
Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. Sur le camp de Blida, je ne voudrais pas en dire davantage. Je pense que c'est une situation tout à fait affreuse. Et d'ailleurs, je ne la comprends pas. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui se passait à Calais. Je ne comprends pas ce qui se passe à Blida, mais je pense que je n'ai peut-être pas les moyens de comprendre personnellement. En tout cas, je voudrais dire que concernant le contrat de santé, Madame Morel a fait un travail très engagé, très sérieux, et je la remercie pour ça. Il y a tout de même des choses que l'on peut noter dans ce contrat qui peuvent nous interpeller, notamment le pourcentage d'enfants touchés par la bronchiolite, de l'ordre de 30%. On apprend quand même des choses dans ce contrat qui peuvent nous interpeller. Concernant la définition de l'OMS sur les contrats de santé et les villes qui s'engagent en matière de santé, je voudrais rappeler, parce que c'est un petit peu quand même mon domaine, que la présence d'espaces verts est très importante, à la fois pour la santé psychique et pour la santé physique. Elle permet de diminuer cette présence d'espaces verts considérablement les maladies cardiovasculaires et l'asthme. Et cela permettrait de faire des économies aussi considérables en matière de sécurité sociale. Voilà, je voudrais simplement remercier Madame Morel et indiquer que les espaces verts restent un point très important dans notre ville et cela plaide pour un coefficient de biodiversité. Je vous remercie.
Merci. Madame Sagrafena.
Merci, Monsieur le maire. Je voulais, à l'occasion de cette motion, souligner l'investissement remarquable de notre collègue pour construire cet outil qui fédère des dynamismes et des initiatives qui existaient mais qui étaient jusque-là dispersées. Je rappelle surtout que cet outil est surtout visé en termes de prévention, surtout, que c'est une volonté de réduire des inégalités en matière de santé et qui rentre d'ailleurs en cohérence avec les inégalités socio-éducatives que nous partageons ensemble avec Madame Mergen. Je voulais aussi signaler la pertinence des fiches actions qui sont jointes à ce contrat, qui sont des mines d'informations et de pistes qu'il nous faut à présent nous approprier pour construire des projets proches des réalités de terrain et dans l'intérêt de nos concitoyens. Je vous remercie.
Merci, M. Cambianica.
Oui, merci, M. le maire. Je vais insister une nouvelle fois sur la pollution de l'air qu'elle émane de nos rues ou de l'autoroute A31 et de la RN431 qui traverse notre territoire. Et ce n'est pas la vignette critère qui a été évoquée tout à l'heure qui résoudra le problème, car dans son règlement très inspiré par l'automobile allemande, un char tigre ou une limousine Mercedes sont moins polluantes qu'une Fiat 500, tout simplement parce que le calcul se fait au kilo et que donc, effectivement, un char tigre, malgré son poids, enfin, du fait de son poids, est considéré comme étant moins polluant qu'une Fiat 500. Je m'excuse, parce qu'on pourrait aussi faire cet amalgame avec une moto qui consomme pourtant trois fois moins qu'une voiture. Alors, Nous savons, parce que c'est mesuré par un organisme à la neutralité incontestable, que la pollution diminue dans de fortes proportions là où nous déployons transport collectif et mode actif, mode doux pour les non-initiés, hein, vélo ou la marche, évidemment. Nos actions, qu'elles soient techniques ou politiques, doivent prendre en compte ces enjeux de santé. Si ce n'était pas le cas, l'utilité publique serait oubliée, pire, bafouée. J'ai noté la faiblesse de la prise de conscience par les publics visés de la nécessaire prévention, malgré le travail admirable d'information et de sensibilisation réalisé par la ville, par la Modemas ou dans un autre registre, par la course La Messine de Marie Comazzetto. Ayant dépassé le temps, je terminerai là.
Merci. Madame Cossuc.
Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues, alors moi, je ne partage pas du tout les critiques sur ce contrat, parce qu'au contraire, on est là dans une démarche qui, d'ailleurs, ressemble beaucoup à la démarche de développement durable. On a de la chance, ce soir, d'avoir un conseil municipal qui se penche finalement sur deux démarches stratégiques, parce qu'elles sont transversales et parce que ce sont des démarches qui nous éclairent. Ces démarches nous éclairent, j'ai tendance à dire, on en sort en général un peu plus éclairé, plus intelligent, parce que justement, ce sont les diagnostics qui vont nous aider à comprendre ce que les populations vivent aujourd'hui sur nos territoires. Et je rappelle qu'en tant qu'élu politique, en tant que responsable politique, on a bien évidemment des responsabilités importantes sur des réponses à apporter, même si ce n'est bien sûr pas une compétence régalienne pour ce qui concerne en tout cas la collectivité locale. Finalement, comme pour les questions environnementales, la santé a bien sûr un aspect macro, mais comme pour le développement durable, les efforts locaux qui sont faits sont extrêmement importants, qui sont faits par les élus mais aussi par les acteurs concernés, sont extrêmement importants pour faire progresser les situations. Les actes stratégiques du contrat local de santé tels qu'ils nous ont été exposés sont en plus le fruit d'une dynamique qui a été conduite, je crois, avec près d'une centaine de structures qui sont concernées. Et c'est aussi la responsabilité d'une ville que de coordonner finalement avec les autres responsables tels que l'agence régionale de santé, de coordonner finalement cette dynamique pour la rendre à la fois plus opérationnelle et plus efficace. Et surtout, plus évaluable également. En plus, je considère que cette démarche, elle arrive à un moment où, globalement quand même, et ça c'est pour moi quelque chose de positif, les populations sont plus sensibilisées sur certaines questions, je pense à la malbouffe, je pense à la santé au travail, aux maladies chroniques qui sont liées aux différentes pollutions, à la vaccination. Finalement, en plus, ces questions, elles touchent toute une population, des plus jeunes aux plus anciens, et pour le coup, c'est quand même le devoir, me semble-t-il, de notre collectivité de participer à la construction de cette politique publique.
Merci Madame Première Adjointe. Madame Bory.
Monsieur le maire, chers collègues, moi aussi je me joins aux félicitations qui sont portées à Madame Morel, parce que je sais que mettre autour de la table autant de personnes différentes et aboutir à cette dynamique n'est pas une partie facile. Et en plus, cette dynamique va nous permettre de mieux répondre aux besoins sanitaires de la population et de réduire les inégalités qu'on sait territoriales et sociales de santé. Bon, c'est aussi une reconnaissance du niveau local comme échelon opérationnel des politiques de santé. Mais bien sûr, je suis assez d'accord pour dire et ne peut se substituer à la politique de santé nationale qui doit rester une prérogative de l'État. Mais ce contrat, il y a avant tout un outil de prévention qui doit nous permettre de développer, de réfléchir à des actions innovantes. Et je suis très satisfaite de voir que l'enfance, les jeunes, l'éducation y trouvent une place importante. Je voudrais simplement juste un peu insister sur tout le rôle que joue la restauration scolaire. Et je me réfère à une étude qu'a rapporté le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le SNESCO, au sujet de la restauration scolaire. Ce rapport montre que le déjeuner a un réel impact sur la qualité de la vie des élèves et sur leur apprentissage. Il montre également qu'il y a un lien fort entre les repas pris régulièrement à la cantine et la protection contre le surpoids et l'obésité. et c'est aussi un temps, bien sûr, de socialisation, d'apprentissage, de citoyenneté. Ma deuxième satisfaction, enfin l'autre satisfaction, est de constater que dans ce contrat de santé, la santé mentale n'a pas été oubliée et que les objectifs retenus sont bien ceux qui fondent la psychiatrie française, à savoir préserver aux patients sa dignité de citoyen et favoriser l'insertion sociale. Aussi, il est essentiel que les professionnels des différentes structures travaillent ensemble, tout comme il est essentiel que l'information soit faite au public pour une meilleure prévention, mais aussi pour déstigmatiser les malades, afin qu'ils puissent aller consulter sans crainte, doute ou culpabilité. Bien entendu, la mise en place de ces fiches actions n'est pas une fin, c'est une étape, et je pense qu'il nous faut rester vigilants sur les besoins dans un contexte difficile qui évolue et se modifie. Et on peut citer la démographie médicale, monsieur le maire. Et je pense qu'elle est en baisse et c'est une baisse préoccupante. Je rappelle, les médecins, surtout chez les médecins généralistes, ils étaient 80 886 en 2016, ils sont 88 137 en 2017, la France. La Moselle est en dessous du niveau national et cette situation touche l'ensemble des spécialités médicales. La tendance ne s'améliorera pas. Près de 55% des médecins généralistes de Moselle ont entre 50 et 64 ans. Mais, monsieur le maire, je sais que vous êtes très attentif au CHR. Et par ailleurs, on dit que les territoires du Grand Est qui ont des statistiques supérieures sont les départements dotés d'un CHU. Aussi, je pense qu'un CHU pour la Moselle est un enjeu majeur. Mais je sais, comme je vous l'ai dit, que vous y attelez. Donc voilà, enfin, je ne saurais terminer cette intervention sans évoquer les coupes que le gouvernement s'apprête à faire dans la santé. Je rappelle un plan de 4 100 000 euros touchant encore une fois fortement les hôpitaux. Alors je dirais que ces coupes sont folles parce que le secteur hospitalier est déjà au bord de l'explosion. Cela fait déjà des années qu'il subit les fermetures de lits, de services et les baisses des effectifs, avec des conséquences bien sûr sur la qualité des soins. Et si ce système tient encore un peu, nous le devons au dévouement et au professionnalisme des personnels. Tout cela pour favoriser l'ambulatoire, une évolution douce d'après notre ministre. Douce si la réalité l'était aussi. Mais la réalité est bien sûr qu'il manque des médecins et qu'il va en manquer. Et ce projet ne peut être performant sans l'assurance qu'il existe un véritable réseau entre l'hôpital et la médecine de proximité. Par ailleurs, les nouvelles recettes seront ponctionnées dans la poche des assurés ou de leurs complémentaires, ce qui revient au même, hein, puisque l'augmentation du forfait hospitalier, qui ne bénéficie pas, lui, d'un tarif social, une logique dangereuse, car comme le dit le docteur Grimaldi, tout transfert de dépenses de la sécurité sociale vers les assurances complémentaires privées, mutualistes ou non, ne diminue pas les dépenses de santé du pays. Il ne fait que les privatiser, sapant très lentement, mais sûrement, le consentement à la solidarité des classes moyennes et supérieures bien portantes. Alors, monsieur le maire, moi, je suis quand même assez... je suis vraiment très, très choquée par ces mesures, mais je suis aussi très inquiète parce qu'aujourd'hui, nous avons une carte vitale qui nous permet de nous soigner. Il ne faudrait pas que demain, nous soyons obligés de sortir notre carte bleue. Merci.
Merci, madame. Madame Séguir.
Monsieur le maire, chers collègues, alors pour rappel, la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Aujourd'hui, nous contractualisons notre contrat local de santé du territoire messin et il est important de considérer ce contrat local de santé comme une consolidation et un prolongement de dynamique de territoire en santé qui est déjà engagée. Il convient aussi de souligner que la réalisation d'un tel programme a constitué l'opportunité de questionner nos choix, nos réalisations opérées jusqu'à présent et nos modalités de pilotage, et de consolider ainsi la qualité de ce qui se réalise sur notre territoire. En effet, les actions santé portées par la ville, nos partenaires, ont produit sur notre territoire des avancées significatives qu'il s'agit de conforter. Nous affirmons encore aujourd'hui que notre engagement politique est à soi un projet stratégique de santé publique allant au-delà de la juxtaposition d'actions. Notre territoire qui travaille aujourd'hui à consolider sa démarche de santé bénéficiera d'avancer de manière importante et de faire des choix stratégiques au niveau de notre sillon métropolitain, mais aussi demain au niveau de notre échelle régionale. Alors, je suis désolée d'entendre que, chez certains membres de l'opposition, que le débat sur la santé publique se résume à s'insurger sur la quantité de pages d'un rapport ou encore d'heures passées sur la rédaction de celui-ci. C'est lamentable. Pour ce qui est du second point sur le candidat, je rejoindrai les propos de Mme Zimmermann et je ne vais pas m'attendre sur l'émeu de certaines personnes car je pourrais être très, très, très violente à ce sujet. Restera à débattre de la mise en adéquation des moyens par rapport à des objectifs ambitieux convenus entre l'État et les collectivités territoriales auxquels nous resterons très attentifs. Alors la mobilisation de tous est primordiale pour l'avancement d'une telle politique de santé qui se veut sincère, solidaire et plurielle. Alors Catherine, Madame Morel, je te remercie pour l'engagement que tu portes en tout cas pour ce plan local de santé. Merci.
Merci. Je voudrais aborder, je ne sais pas s'il y a lieu de répondre, que chacun a apporté son point de vue, c'est un débat général. D'abord, remercier le docteur Wendling et Madame Zimmermann pour leurs propos à propos du candidat. Parce que c'est une responsabilité qui n'est pas la nôtre, mais ce sont des êtres humains qui sont parmi nous. Et ce sont des êtres humains qui sont parmi nous, et du coup notre responsabilité réapparaît. Rien que de ce fait. Et c'est très compliqué, les équations du genre, il y a tant de logements vides et il y a tant de personnes mal logées. Vous savez très bien que ce n'est pas parce que quelqu'un a un logement vide au-dessus de chez lui, parce que la personne est partie en maison de retraite et qu'elle espère revenir, ou il y a des tas de raisons d'avoir un logement vide, parce qu'il y a un héritage qui ne s'est pas fait, parce qu'il y a une succession, etc. Et l'équation n'est pas aussi simple que ça. Nous en faisons plus que la loi ne nous oblige à faire. Et je remercie Raphaël Pitty, je ne le vois pas, il est là-bas, il a changé de place. Je remercie le docteur Pitty pour son travail et son implication. Je remercie le CCAS et toutes les assistantes sociales de la ville et les associations qui s'investissent, qui sont épuisées. J'ai eu l'occasion de m'expliquer avec le préfet, avec les services de l'État. Vous avez eu raison, docteur Wendling, de dire du bien de Madame Chabot. Je pense exactement comme vous. Et c'est une belle personne qui fait son travail en regardant en face la responsabilité de la République avec les moyens qu'elle a et comme elle peut. Et nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à l'appréciation de son travail. Je voudrais vous dire que cette situation ne me plaît pas, qu'elle n'est pas simple. Madame Isler-Béguin avait évoqué le sujet au départ. Si la situation était simple, il suffisait d'être énergique, hein. On pourrait s'y mettre, mais on sait aussi que l'État doit assumer sa responsabilité sur la durée de réponse de l'OFPRA par rapport aux problèmes soulevés, sur le réaccompagnement à la frontière des gens qui ont un OQTF, sur le règlement des problématiques de passeurs, et ce sont des problèmes délicats. Jusqu'à présent, ce sont que les vulnérables qui ont été protégés, et encore dans des conditions moyennes, pour rester modérés. Et bien entendu, ce sera réglé avant l'hiver parce que c'est la loi. Mais cette situation ne me plaît pas. On a effectivement, j'ai moi-même échangé avec le ministre de l'Intérieur, hein, qui avait la même chose à Lyon. Hein. Ah, c'est que, voilà. Parce que Lyon est aussi une plaque tournante importante. Nous avons un problème direct aussi, notre pays et l'Europe avec l'Albanie, en fonction des autorisations Schengen, etc. Tout ça, c'est complexe. Et voilà, je vous remercie d'avoir abordé ça aussi bien l'un que l'autre. Ça en oublie nos débats parce que c'est un peu facile, hein, de faire comme si le maire qui est ici, et singulièrement en matière de santé, je reviens sur le deuxième point et je terminerai sur les réponses à vos questions, madame. Je reviens sur le deuxième point. Quel rôle avons-nous à jouer? C'est un rôle qui est à la fois très important et très très faible. Il est important parce que nous, justement, Madame Morel a fait un gros travail. On a rencontré une foule de gens. Est-ce que c'est du temps perdu, passé? En tout cas, on en parle. On parle entre nous de ces problématiques. Quand Madame Bory répond oui, on peut jouer sur la santé des enfants avec les 3 000, 3 500 enfants qui, tous les jours, mangent dans les cantines. Ben oui, c'est un résultat, parce qu'on s'occupe de santé publique comme ça. Quand oui, on fait des espaces verts qui sont adaptés, ça a été dit par Madame Molinet, des espaces verts qui permettent à des gens de prendre l'air. Quand j'étais petit, on disait « il faut prendre l'air, ces enfants ne prennent pas l'air ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, ils étouffent dans des quartiers où ils sont sur eux-mêmes. Eh bien oui, ce sont des avancées. On a un rôle à jouer. Mais ce rôle, il n'est pas un rôle médical. il a un rôle de prévention. On a l'habitude de dire en France que la santé publique, à travers la sécurité sociale, c'est remarquable. Et c'est le reste, c'est la prévention, c'est la malbouffe, c'est l'alcoolisme, c'est la drogue, c'est la mauvaise éducation dans certaines familles, dans certains milieux, qui aboutit à ce qu'il y ait une espérance de vie qui soit moins grande. Pourquoi est-ce qu'il y a une meilleure espérance de vie dans les milieux bourgeois que dans les milieux prolétaires? Devinez. Eh bien, c'est tout simplement parce que les principaux éléments de la santé publique sont davantage pris en compte dans certains milieux qui savent se protéger, qui savent faire du sport, pratiquer différentes disciplines, manger différemment, s'obliger à manger autrement, et qui fait qu'on a des résultats sur la durée de vie. C'est comme ça. Et donc, nous avons un rôle à jouer. Et je vous rassure, notre rôle, il est réel, même s'il n'est pas unique, bien sûr. Voilà ce que je veux dire. Donc, moi, je prends ma part à cette problématique-là, mais je crois que c'est bien qu'on s'en occupe, parce qu'on a notre rôle à jouer. Et je remercie ceux qui se sont impliqués, parce que c'est ingrat. Hein, et puis, on a effectivement l'impression que, finalement, à la fin, c'est chez le médecin. Maintenant, je redonnerai la parole, Madame Morel. Je redonnerai la parole. Troisièmement, Madame Paragiosimane a posé deux questions. La première concerne Le Gouest. L'hôpital d'instruction des armées Le Gouest continue. Il continue à exister. Son effectif objectif est de 470 personnes, ce qui est important, significatif. Moins qu'avant, mais d'une façon significative. Un certain nombre de ses activités, notamment dans tout ce qui est opération, hein, a été fusionné avec l'hôpital Le Gouest, et donc il y a un certain nombre de pratiques médicales lourdes qui ont été fusionnées. Les médecins militaires continuent à se former, mais ils se forment dans des équipes civilo-militaires, notamment dans les urgences. Ils sont mêlés aux urgentistes, comme ça, quand il y en a un qui est en OPEX quelque part, il n'y a pas... Un effectif qui est complètement déstabilisé parce qu'il n'aurait été que 3 ou 4, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, de ce côté-là, on a passé des conventions, des accords entre le CHR et Le Gouest. Le Gouest a hébergé un certain nombre d'activités qui étaient jusqu'à présent à Mercy, comme par exemple tout ce qui est soins palliatifs. Les lits de soins palliatifs de l'hôpital du CHR sont à Le Gouest maintenant. On est en train de construire le centre de production de repas à Le Gouest pour l'ensemble des activités médicales de tout le grand Metz, si je puis dire. Et donc, il y a une implication de plus en plus grande. Et je rappelle qu'il y a la permanence des soins à Le Gouest et qu'il y a un certain nombre, par exemple, à tout ce qui est dentaire, l'urgence dentaire de Metz est à Le Gouest. J'espère que ce sera la même chose pour l'ophtalmologie, parce qu'on attend un ophtalmologue qui permettrait d'aller à l'hôpital pour des urgences des yeux. Le Gouest, de par sa position en centre-ville, est très bien placé pour les urgences. Et les urgences qui ne nécessitent pas un énorme matériel derrière peuvent se passer ici. Ça se passe dans les radios entre les ambulances et le SAMU et les pompiers, et ça fonctionne bien. Donc, on est en train d'intégrer Le Gouest dans un dispositif plus global, et ce sont des activités civilo-militaires qui permettent à Le Gouest de continuer à exister, de former des médecins militaires qui peuvent partir en opération et en même temps d'être intégré dans ce qu'on appelle le groupement hospitalier de territoire, qui est un ensemble de 800 000 habitants, dont le CHR est le vaisseau amiral, mais qui comprend Gorze, Briey, Boulay, Thionville, Hayange, etc., et qui est en fait un dispositif assez bien étudié, à mon avis. Le territoire national s'organise et de plus en plus doit se coordonner. Pour les médicaments, ce n'est pas la peine d'avoir 36 pharmacies, parce que ça coûte cher, il faut le gérer, il faut des pharmaciens, etc. On peut très bien avoir une pharmacie qui rend service à tout le monde, etc. Et donc, c'est relativement bien. Je me permets de vous expliquer tout ça, parce que je m'en suis occupé sérieusement, parce que j'avais peur que le Gouest ferme, figurez-vous, quand on a eu les restructurations militaires. Et à l'époque, avec le ministre Le Drian, qui était ministre des Armées, je m'en suis occupé directement. Voilà. Et puis je repasse la parole à Madame Morel, puisqu'elle avait peut-être des conditions, des compléments à apporter.
Non, je vais être très bref. Je voulais juste vous faire part de ma surprise, de la désapprobation de l'opposition, parce que c'est quand même un système d'une partie de l'opposition qui sont exprimées, parce que ça
une
fait
une petite partie de l'opposition.
Une partie, voilà. Bon. Parce que ça émane quand même de la loi de Roselyne Bachelot, la loi HPST de 2009, et on était quand même sous Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, moi qui n'étais pas de droite spécialement, j'avais salué ce dispositif qui permettait quand même d'approcher directement les gens, parce que c'est quand même eux qui savent mieux que tout le monde ce dont ils ont besoin. Et ce contrat local de santé avec ses différents axes, il émane quand même d'un diagnostic où on a demandé aux médecins si c'était ça qu'ils voulaient ou qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc ça, quand même, le diagnostic partagé, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a demandé à tout le monde, c'est de la santé publique, c'est besoin, demande, réponse, trois cercles, et on essaye d'accoler ces trois cercles pour coller au mieux à la réalité. Donc ce qui est dans le contrat local, ça a été fait aussi avec les médecins. Deuxième chose, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, je voulais quand même saluer les 96 institutions, associations, participations, parce que les 55 fiches, elles n'ont pas été écrites par les services, ça a été supervisé par les services, ça a été écrit par les participants et supervisé de manière méthodologique par l'IREPS, qui est quand même l'instance régionale de la prévention et de la promotion de la santé, parce qu'on est vraiment dans ce domaine-là. Mais je peux comprendre vos réticences, et ce que je voudrais vous proposer, monsieur le maire, puisque les gens sont ce qu'ils font et pas ce qu'ils disent, de faire régulièrement un point sur le contrat de santé, les différentes fiches, jusqu'à la fin du mandat.
Écoutez, je vais mettre aux voix maintenant. Y a-t-il des oppositions ?
Explication de vote.
Alors, explication de vote de madame Nicolas et ensuite explication de vote de madame Singer. Nicolas.
Je vais quand même répondre à deux choses. Je vous entends là parler du diagnostic partagé. Sur l'ensemble du rapport, il fait 2 pages. Travailler 2 ans et demi pour nous donner 2 pages de diagnostic partagé où on apprend que la population a vieilli, qu'elle se paupérise. Ah ben écoutez, je l'ai eu de A à Z, 2 pages, hein, où la population se paupérise, enfin, tout ça l'INSEE nous donne, on n'a pas besoin. Quant aux actions, eh ben, j'espère bien qu'il y aura un suivi, parce qu'honnêtement, la plupart d'ailleurs existent déjà, on n'a pas, c'est pas la peine de les suivre. Quant aux autres, on ne sait pas qui finance quoi, qui les porte, enfin, vous rigolez ou quoi, c'est 240 pages de blabla. Recto verso, et je le redis et je le maintiens, quant à la qualité du pilotage, ah ben là on va bien rire, il suffit de voir la communication qui sera faite par le comité technique qui devrait être balisé par le service communication de la ville de Metz puis celui de l'ARS pour enfin revenir au comité de pilotage. Non mais enfin, on se moque de qui? Alors si ça c'est pas un frein pour avancer, j'aimerais bien savoir ce que c'est. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fera évoluer le niveau de santé des médecins. Je vous remercie. Bien, moi j'en ai marre de signer des rapports ou de blabla où on n'avance pas.
Vous n'avez pas indiqué votre vote, s'écoute. Madame. Votre vote, madame.
Je m'abstiens.
Et madame, merci. Colère, madame Singer.
Alors, monsieur le maire, moi, aborder le sujet des conditions de vie déplorables dans le camp de Blidas n'est pas faire de la récupération politique, mais s'intéresser humainement à des hommes, à des femmes, à des enfants qui, au péril de leur vie parfois, ont souhaité rejoindre simplement le pays patrie des droits de l'homme, dont la municipalité de Metz, pour ma part, n'a pas un échantillon à leur proposer. Quel rôle avons-nous justement à jouer? Parce que c'est quand même la question que vous avez posée tout à l'heure.
Quel vote?
Eh bien, mon rôle n'est pas d'être d'accord avec vous, monsieur le maire, mais et donc dans ces cas-là, de vous le dire et de vous le faire savoir. Vous avez notamment le docteur Pitti, qui vous a demandé un centre d'urgence. Hein, où est-il? Alors, vous voyez, monsieur le maire, moi, je suis bien contente d'être partie à l'époque du groupe de Madame Zimmermann, parce que nous n'avons effectivement pas du tout les mêmes valeurs. Je vous remercie.
Alors, on n'a pas entendu votre vote, madame.
Je voterai pour le contrat local de santé.
Ah, en plus.
Ah bon. Bien. Alors, qui est contre?
Ma personne.
Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4 abstentions. Et qui est pour? Donc les autres, levez la main quand même, parce que là, je voudrais bien vérifier. Donc ça vote là-bas, chez Cazin, etc. Et Madame Singer est pour, et puis Monsieur Till, Madame Audouy et Madame Zimmermann, et puis le reste de la majorité. Je vous remercie. Ben voilà un vote original. Merci.